Bonsoir à tous. Elle livre ses réponses depuis 48 heures et elle connaît déjà des ratés. Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, 900 000 lycéens et étudiants concernés, plusieurs milliers passés en quelques heures d'admis à liste d'attente. Témoignages et tentatives d'explication dès le début du journal. Le bilan européen du Rassemblement national est catastrophique. Emmanuel Macron fustige le parti de Marine Le Pen à 9 jours des européennes. Les partis nationalistes ont rendez-vous demain à Milan. Nous y sommes. Au sommaire également ce soir, l'homéopathie peut être bientôt déremboursée. Boiron confirme le premier avis de l'autorité de santé. Alain Cavalier en séance spéciale à Cannes. Le carnet d'adresses de Doramar retrouvé par hasard et qui fait l'objet d'un livre. Et puis le temps, week-end plutôt nuageux. Les plateformes se suivent et les ratés persistent pour entrer dans l'enseignement supérieur. APB était contesté pour son tirage au sort dans les filières très demandées. Parcoursup, lancé l'an dernier, connaît donc un gros bug aujourd'hui. Certains candidats qui avaient reçu une proposition d'admission ont finalement découvert qu'ils étaient sur liste d'attente. Cléa Berchiati est dans ce cas et ce n'est pas la première fois.
L'année dernière, j'étais déjà sur Parcoursup. Et j'avais dû prendre par dépit une licence art du spectacle qui ne m'a pas plu et que j'ai arrêté en cours d'année. À la réouverture de Parcoursup, j'ai choisi un BTS audiovisuel que j'avais déjà choisi l'année dernière. J'ai été prise donc mercredi dernier et malheureusement, là je reçois un mail ce matin qui me dit que en fait non, c'était une erreur. Donc c'est assez déroutant, surtout que je me retrouve dans les 300 sur liste d'attente quoi, alors que j'étais prise au début. J'ai un job étudiant à côté. Je me suis posé la question si j'allais pas passer à 35 heures en tant que caissière. Sinon, je vais me réorienter sur un CAP, mais j'ai eu mon bac avec quand même une bonne moyenne et j'étais en licence. Donc retourner en CAP, ça fait un peu bizarre, mais si c'est ce qu'il faut pour trouver après un travail, on va être obligé de passer par là.
Voilà le parcours sub du combattant, pardon pour le jeu de mots, de Cléa Berchiati, 19 ans, de l'Isère, au téléphone de Sébastien Sabiron. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Que s'est-il passé Sonia? Une confusion entre deux options sur le site, c'est ça? Entre liste d'appel et liste d'attente?
Oui, une erreur de saisie dans 400 formations. Non seulement les admis ont reçu une réponse positive, mais aussi tous ceux qui étaient en liste d'attente, donc beaucoup trop de candidats admis pour le nombre de places. C'est ce qui a alerté le ministère dès hier, qui a préféré bloquer la plateforme pour tout vérifier. Cela s'est passé dans des formations sélectives, qui avaient une capacité d'accueil très limitée, principalement des BTS, des écoles d'art, quelques classes prépa et quelques filières universitaires. Au total, plusieurs dizaines de milliers de candidats sont concernés. Le ministère ne donne pas de chiffres précis. Ils sont donc repassés en liste d'attente. Le site a été réactualisé vers 12h30, mais cet après-midi, nouvelle déception pour certains, comme Eva, qui avait été admise mercredi soir dans une école d'art. Sa mère, Émilie, raconte.
À 1h30, on regarde les mises à jour réalisées et on voit qu'Eva, pour cette école, est passée en liste d'attente, elle est première en liste d'attente. Donc, satisfaite de cela, je l'appelle pour lui dire peut-être des chances d'être prise parce que ça reste son choix de cœur. À 17h, elle me renvoie un SMS en me disant qu'elle n'est plus première sur la liste d'attente de cette école parisienne, mais qu'elle est passée 28e. Donc, là, elle est vraiment tombée de haut et on est tous tombés de très haut.
L'actualisation du site a été progressive, se justifie le ministère, en deux étapes. Mais ces nouvelles erreurs, ces faux espoirs, sèment le doute désormais sur la plateforme.
Sonia Princey est toujours à la page éducation. Le Sénat, à majorité de droite, vient de supprimer la partie de la loi Blanquer sur l'école de la confiance, sur le regroupement école-collège. Vous en parliez dans l'édition de 18h. Merci Sonia. Des chiffres encore, ceux du tourisme l'an dernier en France. Notre pays reste la première destination mondiale en 2018, avec près de 90 millions de touristes, malgré les premières manifestations de gilets jaunes, c'était mi-novembre, mouvement qui a néanmoins laissé des traces à Paris, Philippe Lefebvre.
Oui, car si la France a une nouvelle fois battu son record de fréquentation touristique, avec 3% de touristes en plus par rapport à l'année dernière, eh bien, tous les professionnels du secteur estiment que l'on aurait pu largement dépasser le cap des 90 millions de touristes s'il n'y avait pas eu les violentes manifestations de gilets jaunes, dont les images ont fait le tour du monde et provoqué parfois des annulations de séjour. D'ailleurs, du côté des palaces, on reconnaît que les taux de remplissage des hôtels de luxe sont depuis décembre en baisse de 35 à 40%. En revanche, bonne nouvelle, les touristes étrangers qui sont tout de même venus ont dépensé plus dans l'Hexagone, 56,2 milliards d'euros, soit une progression de 5%. Enfin, pour l'été qui vient, les professionnels du tourisme font preuve d'un optimisme mesuré, car si du côté des compagnies aériennes, on évoque une augmentation des réservations en direction de la France de 3,4%, en revanche, pour les premiers mois de l'année, la fréquentation étrangère est en baisse de 5,6% par rapport à la même période de l'année dernière. En clair, les futurs touristes pourraient bien passer par la France, mais sans y rester.
Le déremboursement des produits homéopathiques est-il en train de se préciser ?
Eh bien, il semble bien, à en croire ce soir l'un des fabricants de ces produits, les laboratoires Boiron. Il confirme que la Haute Autorité de Santé n'est pas favorable au maintien du remboursement de ces granules. On rappelle que c'est un projet d'avis qui a été envoyé aux trois laboratoires concernés. Il faut encore un avis définitif, puis la décision finale du ministère de la Santé. Le groupe lyonnais Boiron, dont le chiffre d'affaires dépend à 60% du marché français, a suspendu sa cotation hier à la Bourse de Paris. Nicolas Sarkozy ne devrait pas échapper à un procès dans l'affaire Big Malion. Le dépassement de 20 millions d'euros du plafond des dépenses électorales lors de sa campagne de 2012. Le Conseil constitutionnel donne son feu vert. Il rejette le recours déposé par l'ancien président qui considérait lui qu'il ne pouvait pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Les sages lui ont déjà infligé 360 000 euros de pénalité après l'invalidation de ses comptes de campagne. La politique côté européenne maintenant à 9 jours du scrutin. Avec ce rendez-vous des nationalistes demain en Italie, 12 partis d'extrême droite qui se retrouvent à Milan, là où se trouve la radio de la Ligue de Matteo Salvini, radio Padania Libera, média connu pour sa libre antenne, que le vice-président du Conseil italien animait d'ailleurs dans les années 2000. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ? Eh bien, visite des studios avec Franceline Beretti.
02 66 20 35 29, pronto.
Pendant la libre antenne, aucun filtre. L'auditeur est catapulté en direct, sans même laisser son nom au standard. Un échange est devenu culte. L'Italie débat des écoles islamiques. Un auditeur musulman appelle.
Dans 10 ans, il y aura des centaines d'écoles arabes dans tout le pays. Alors je vous laisse manifester. De notre côté, nous faisons ce que nous avons à faire.
Du pain béni pour l'animateur Matteo Salvini.
Je vous remercie de nous avoir téléphoné. Il est 10h18, nous sommes le jeudi 9 novembre 2006 et cette détermination honnête, cette sincérité en dit beaucoup plus que toutes nos paroles, tous nos discours.
12 ans plus tard, Radio Padania diffuse encore régulièrement cette réponse. Ce média compte toujours pour la Lega et pour son chef. La libre antenne permet de comprendre les attentes et d'adapter le discours. Alessandro Morelli, député et ancien animateur.
Elle nous permet de sentir où va le courant. Dans mon émission, je commentais d'abord les 3-4 gros titres de la presse généraliste. Mais ensuite, avec la libre antenne, je me rendais compte que les gens parlaient d'autre chose. Peut-être que la presse regarde la réalité avec un œil partial. Parce que ce sont les gens qui ont raison, toujours.
L'âge d'or de cette radio est révolu, mais en pleine campagne pour les européennes, elle reste incontournable. À Milan, Franceline Beretti pour France Inter.
Milan où Marine Le Pen sera aussi présente avec un nouveau dérapage à gérer qui vient gêner la stratégie de dédiabolisation du RN, l'exclusion de l'assistant de Nicolas Bay, déguisé en juif orthodoxe sur une photo avec grimace et doigts crochus. De l'humour de très mauvais goût, reconnaît l'eurodéputé. Emmanuel Macron était lui à Biarritz aujourd'hui, bref bain de foule et visite des lieux du prochain G7, ce sera en août. L'occasion aussi d'un coup de sabot au Rassemblement National, précisément principal concurrent aux Euro.
Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est pas grave si le Rassemblement National est encore une fois le grand gagnant de ces élections. Il y a 5 ans, il a été le grand gagnant. Il ne faut pas l'oublier. Et nous n'avons pas offert au reste de l'Europe le plus beau des visages à cet égard. Ils sont là. Ce sont les sortants. Qu'ont fait les sortants ? Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe, y compris pour nous protéger. Sur tout un tas de sujets, leur bilan est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe. Donc je considère que c'est mon devoir, de là où je suis, simplement d'appeler nos concitoyens à regarder le sujet tel qu'il est, à regarder ce qu'a fait ce mouvement politique en Europe. On a plus parlé de lui pour des affaires d'assistants que pour des réussites politiques.
Emmanuel Macron à Biarritz au micro de Paul Nicolas. Et là, c'est une affaire à la fois européenne, de santé publique et d'environnement. Le train Perpignan-Rungis obtient un sursis. Ce train qui transporte toutes les nuits des fruits et des légumes d'Espagne et du sud de la France vers le célèbre marché parisien. Bonsoir Célia Kigrem.
Bonsoir Sébastien.
Les wagons ne sont plus tout neufs et il devait s'arrêter fin juin ce train, remplacé par des camions. Finalement, il vient d'être prolongé de 6 mois.
Oui, grâce à la pression politique et aux 14 000 signatures de la pétition, tout tout cela a bien eu un effet. La SNCF, poussée par le gouvernement, fait finalement un geste. Cela évitera d'avoir 50 semi-remorques de plus chaque jour sur les autoroutes. C'est donc un premier sursis pour le vice-président de la région Occitanie, Jean-Luc Giblin.
C'est une bonne nouvelle. Cela correspond à ce que nous avions demandé au niveau de la région Occitanie. Cela met aussi en lumière le fait que la date du 30 juin n'était donc vraiment qu'une décision politique et pas du tout liée à des éléments techniques. Les informations en notre possession confirment que les wagons ont encore 2 ans à 2 ans et demi de vie. Donc la date du 31 décembre, à ma connaissance aujourd'hui, n'est pas une date fatidique techniquement. Il y est par contre important de trouver des solutions et nous y sommes nous très attachés en région Occitanie.
Mais quelle solution après le 1er janvier? Le ministère des Transports pousse pour que la SNCF installe des conteneurs directement sur le train dès l'automne et le but est de créer plus tard une autoroute ferroviaire, c'est-à-dire des camions directement sur le train. La CGT, elle, maintient la pression. Jean-Luc Courtina de l'Union locale de Perpignan évoque une victoire seulement en demi.
Faut rien lâcher, hein. On a gagné qu'une petite partie, quoi. Maintenant, faut gagner le train complètement. Il y a beaucoup de conséquences sur l'arrêt de ce train. On veut pas se retrouver dans un département où Saint-Charles perdrait son statut de premier marché européen.
Et justement, il y a surtout un enjeu de survie pour les primeurs du sud de la France. Aujourd'hui, 60% des fruits et légumes transportés par ce train sont déjà espagnols. S'il disparaît totalement, l'autoroute ferroviaire Barcelone-Rungis prévue en 2022 dopera les produits espagnols qui arriveront encore plus vite à Rungis. Autrement dit, il faut que ce train du futur puisse s'arrêter à Perpignan. Une mobilisation est prévue vendredi prochain.
Célia Kiret. C'était 10 jours avant Noël 2017. Un car scolaire était percuté par un TER au passage à niveau de Mias dans les Pyrénées-Orientales. 6 enfants étaient tués, 18 gravement blessés. Aujourd'hui, premier résultat du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre qui met en cause la configuration des lieux. La conductrice du car n'a pas vu que la barrière se fermait alors qu'elle arrivait d'une route perpendiculaire. Ce n'est pas au défenseur des droits à trancher le sort de Vincent Lambert. Il était saisi par les parents du tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans et dont les médecins ont prévu d'arrêter les soins à partir de lundi. Le parquet de Besançon fait appel dans l'affaire de l'anesthésiste mis en examen hier soir pour 17 nouveaux empoisonnements de patients. Le médecin a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Les victimes se disent choquées. Et puis Mehdi Nemmouche, transféré en France, le djihadiste français incarcéré à la prison de Meaux, à l'est de Paris. Il a été condamné en mars en Belgique pour la tuerie du musée juif de Bruxelles et il est poursuivi dans l'Hexagone pour enlèvement et séquestration de 4 journalistes. C'était en 2013 et 2014.
Il est 19h12 sur France Inter, la suite du journal de Sébastien Paour avec le mariage entre personnes de même sexe qui est désormais légalisé dans 27 pays du monde.
Oui, Taïwan vient de s'ajouter à cette liste. C'est une première en Asie. Et la décision tombe le jour dédié à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Amnesty International avait donné rendez-vous pour l'occasion devant l'ambassade de Russie à Paris pour déposer une pétition contre l'homophobie dans ce pays et surtout en Tchétchénie. Action symbolique accompagnée d'une opération de baiser en soutien, Nathanaël Charbonnier, aux personnes LGBT.
Il y a des baisers que l'on n'a pas envie de rater et ceux échangés ce vendredi devant l'ambassade de Russie en font partie.
Ce qu'il faut avoir en tête là, sur vos bisous ou vos câlins, c'est l'amour n'est pas un crime.
Des baisers voilà, entre ça, hommes, des baisers de entre femmes, des longs baisers transformés en armes puissantes pour lutter contre l'homophobie qui règne en Russie, mais surtout en Tchétchénie, Bertrand de l'association SOS Homophobie.
Nous dénonçons l'homophobie d'État pratiquée en Tchétchénie depuis des mois.
Et les chiffres sont là pour le prouver. Selon Amnesty, entre persécution et fuite, ce sont des centaines de personnes qui sont concernées. Car en Tchétchénie, être gay, c'est culturellement une tare. Sébastien Tuller, responsable des questions LGBT à Amnesty.
Il y a une forte homophobie dans la société en général, puisque la société tchétchène est organisée de manière très clanique autour de codes d'honneur, et donc l'orientation sexuelle, c'est encore interprété comme un déshonneur. Tant qu'il y aura une impunité qui règne en Tchétchénie, ces persécutions vont continuer.
Et pour ceux qui en douteraient encore, la porte close ce matin de la Russie, qui a refusé de recevoir la délégation d'Amnesty, en dit long. Une porte close qui n'entame pas en tout cas la détermination de Nina Walsh d'Amnesty France.
Les autorités de l'ambassade russe refusent de nous recevoir, donc on va essayer de trouver un autre moyen. Là, on nous a juste dit niet.
Et il faut savoir qu'au niveau mondial, cette même pétition d'Amnesty International a recueilli plus de 500 000 signatures.
C'était la dernière solution possible au Royaume-Uni. Les travaillistes actent l'échec des négociations avec les conservateurs sur le Brexit. Courrier de Jeremy Corbyn à Theresa May. Les discussions sont allées aussi loin que possible, écrit le patron du Labour à la première ministre britannique. Il met en avant la faiblesse et l'instabilité croissante du gouvernement. Madame May en dira plus sur son départ après le dernier vote des députés prévu le 3 juin. Et puis la Norvège confirme, elle joue bien les médiateurs entre pouvoir et opposition au Venezuela. Des représentants de Maduro et de Guaido se sont bien vus ces derniers jours à Oslo.
Certains voyaient Antoine Griezmann au PSG, mais ça a l'air assez mal parti.
Oui, lui qui vient d'annoncer qu'il quittait l'Atlético Madrid à la fin de la saison. Ce n'est pas réaliste pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. Le club champion de France ne cherche pas ce genre de profil, explique le technicien allemand.
En tant que Griezmann, il peut jouer avec toutes les équipes du monde. Et ça fait plaisir pour tous les entraîneurs et toutes les équipes. Mais en ce moment, c'est pas réaliste. On cherche des joueurs et on cherche des joueurs avec certains profils. Et c'est toi être réaliste pour faire ça. Et on a des profils qu'on a besoin. Et ce sont encore des joueurs défensifs. Et on doit commencer avec ça.
Voilà de quoi relancer la piste de Barcelone pour Antoine Griezmann, on suivra ça. Sur les marches de Cannes ce soir, l'équipe de Pedro Almodovar en compétition avec douleur et gloire et peut-être une première palme pour le réalisateur espagnol. Et puis en séance spéciale, le nouveau film d'Alain Cavalier, Être vivant et le savoir. Film très singulier et vabétant par son sujet comme par la manière de le traiter.
Il est cinéaste, il est aussi, comme il le dit, filmeur. Alain Cavalier fait parfois des films avec des moyens plus que légers, comme un journal intime. Il y a les événements, mais il y a surtout leur effet sur lui. Précision importante, car dans ce film, Alain Cavalier tourne autour de la mort. C'est l'histoire d'un film qui ne s'est pas fait. Cavalier devait porter à l'écran, avec elle, le livre d'Emmanuel Bernheim, Tout s'est bien passé, dans lequel celle-ci évoquait la mort de son père. Et voilà qu'Emmanuel Bernheim tombe gravement malade, le tournage est reporté, et c'est un autre film qui n'est est là devant nous. Ce film-là, c'est Alain Cavalier et un événement imprévu et tragique, et l'attente, et peut-être hors champ, pour une amie de 30 ans, la mort qui avance. Tout peut faire cinéma, même une de leurs conversations téléphoniques. On est aux aguets, on craint le faux pas. Au final, on se dit, ça va, le respect est là, l'affection aussi. Alain Cavalier montre peu Emmanuel Bernheim. Mais quand elle est là, même avec un turban du fait de la maladie, elle illumine l'écran de son humour, de son intelligence. Ce n'est plus la mort, c'est elle vivante qui devient le cœur du film. À Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Et on termine avec un livre en forme d'enquête passionnante. Je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun. La journaliste raconte comment elle a reçu un jour par la poste un mystérieux carnet d'adresses qui a appartenu à Dora Maar, la muse et compagne de Picasso, et qui va devenir son obsession pendant 2 ans. Ilana Mourioussef.
Il n'y a pas que des inconvénients à avoir un mari étourdi. Quand celui de Brigitte Benkemoun a perdu son agenda, un modèle ancien, introuvable dans le commerce, elle lui a suggéré d'en acheter un d'occasion.
Le paquet arrive et dans ce paquet, je vois qu'on a oublié un petit carnet d'adresses qui était resté glissé dans la poche intérieure. Donc je l'ouvre et le premier nom sur lequel j'ai buté, c'est Cocteau. Puis après, je les ai vus tous défiler, Aragon, Breton, Giacometti, Chagall, Lacan. J'avais sous les yeux une sorte d'annuaire intime du gratin culturel de l'après-guerre.
À qui pouvait bien appartenir un tel carnet?
Peu à peu, je suis arrivée à la conclusion que c'était une femme, parce qu'il y avait un coiffeur, un institut de beauté, qu'elle était proche des surréalistes, parce que Éluard, Aragon, Breton... Je supposais qu'elle avait été analysée par Lacan, puisqu'il y avait son numéro. Donc je resserrais, c'était Dora Maar.
Dora Maar, photographe d'avant-garde, peintre, et pendant 10 ans, muse et compagne de Picasso. À partir des noms du carnet, Brigitte Benkemoun reconstitue la vie de cet artiste, consumé par sa passion pour un génie.
Je crois que je suis passionnée par son monde avant de l'être par elle. Ce que j'en apprends au premier abord n'est pas très sympathique. J'apprends qu'elle a fini recluse et antisémite. Ce n'est pas ce qui vous donne le plus envie de passer 2 ans avec quelqu'un. Mais en même temps, comment résister à l'appel de tous ces noms, à l'appel de tous ces génies dans un carnet d'adresses? Donc j'ai fait, comme disait Picasso, je trouve et je cherche après. Donc j'ai trouvé le carnet d'adresses et j'ai cherché par ce carnet d'adresses qui elle était.
Une enquête passionnante, impossible à lâcher.
Je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun. C'est publié chez Stock. Et puis merci à Clément Berman, à Michel Mézikian et à Nicolas Cazot qui étaient aux manettes des journaux de 13, 18 et 19h de France Inter cette semaine, Claire.
Et merci à vous, Sébastien Paour. Des nouvelles du temps dans quelques secondes.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire.
Un bonsoir beau samedi en perspective avec au programme nuages et averses.
Ou pas, on sera encore sous l'influence de la perturbation qui arrose la moitié sud actuellement. La nuit s'annonce d'ailleurs particulièrement pluvieuse en Corse avec des cumuls parfois abondants. Les averses orageuses arrivant sur l'île par le sud en ce moment. Demain, le temps sera gris et pluvieux au sud de la Garonne, des Pays de la Loire, au Poitou-Charentes et au Massif central et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il va aussi bien neiger en montagne, notamment sur les Alpes du Sud. Ailleurs, le ciel sera chargé, mais les averses seront plutôt rares en matinée. Les averses vont devenir plus nombreuses et plus actives l'après-midi, tournant même à l'orage, notamment entre le Jura et le nord des Alpes, et entre l'intérieur de la Normandie et la Picardie. Entre les plages normandes et le Boulonnais, et surtout autour du golfe du Lion, le ciel va s'éclaircir demain après-midi, on retrouvera un peu de soleil. Et puis les températures resteront stationnaires, variant entre 14 et 22 degrés du sud-ouest au nord-est.
Et dimanche ?
Eh bien, on attend encore des averses sur la moitié est et près des Pyrénées, notamment entre le Pays Basque et l'Ariège. Des orages seront toujours possibles. On trouvera plus d'éclaircies et moins d'averses sur le reste du pays. Mais c'est surtout sur le Bas-Languedoc et entre la Bretagne, la Basse-Normandie et le Pas-de-Calais que le soleil se montrera le plus fréquemment. Et puis les températures resteront comprises entre 15 et 22 degrés.